Cet été, alors que le vent soufflait sur le causse du Larzac, des milliers de personnes se sont retrouvées pour discuter, échanger autour du thème de l'écologie et des moyens de lutte pour sauver le vivant. C'était les Résistantes 2023. Radio Larzac était sur place avec une dizaine de radios associatives pour se faire le relais de ces discussions. L'enregistrement que vous allez entendre est la conférence de presse de la coalition de collectifs La Déroute des Routes qui lutte contre l'artificialisation des sols. Un échange en parfait écho avec l'actualité alors que l'artificialisation des sols s'intensifie avec le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Bonne écoute.
N'hésitez pas à prendre place, installez-vous confortablement. Donc, on avait quand même préparé malgré tout, hein. Donc nous sommes la Déroute des Routes, en partie, enfin nous ne sommes pas toutes et tous là. Je vais présenter rapidement c'est quoi la Déroute et c'est quoi l'objet de cette conférence de presse. L'objet étant, c'est hyper bizarre de parler dans un micro tout seul, l'objet étant d'annoncer notre saison d'action, la saison d'automne de la Déroute des Routes. On vous distribuera le tract à la fin dans lequel vous aurez tout le petit planning à venir. Donc la Déroute des Routes c'est quoi? C'est une coalition nationale de collectifs en lutte contre des projets routiers un peu partout en France. On est une cinquantaine de collectifs, on existe depuis un an et demi, et toutes les 2-3 semaines, il y a un nouveau collectif qui nous rejoint, donc c'est une coalition qui grandit en permanence. La question des routes, ce qu'il faut, quelques chiffres quand même pour se donner un peu une idée. En France, on a 1 100 000 km de routes. C'est le premier ou deuxième, on n'est pas encore sûr, nombre de kilomètres de routes par habitant en Europe. On joue à qui est le premier avec les Pays-Bas. Ça fait 120 mètres carrés de route par habitant. Ça fait donc plus que la surface habitat par habitant. On a tous 120 mètres carrés sur lesquels on pourrait s'installer sur les routes. Voilà. Et donc, il y a du coup encore une cinquantaine de projets, voire plus, de nouvelles routes qui sont lancées par l'État ou par des collectivités territoriales, mairies, départements, régions, etc. Donc nous, on s'est constitué il y a un an et demi en coalition et on s'est rendu compte tout de suite, et c'est ce qui a été intéressant pour nous toutes et tous, que, en fait, quel que soit malgré la diversité des territoires dans lesquels on est, en fait, les projets routiers étaient toujours exactement les mêmes et ils étaient toujours tous censés répondre à des problématiques soi-disant locales de fluidification du trafic et de désenclavement des territoires. Et du coup, toujours avec la même réponse qui est on va faire une nouvelle route. Donc, c'est une espèce de fast-food de la réponse de la mobilité. Il y a un problème, on fait une nouvelle route. Donc on s'est dit, bon, soit ils sont complètement idiots, soit il y a une logique derrière tout ça. Donc on a réfléchi à quelle pouvait être la logique. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça ne répond jamais à une problématique locale. Ça répond toujours à deux enjeux pour les promoteurs des routes, qui sont l'intensification du trafic de marchandises, donc du trafic de camions, en gros à travers l'Europe, du sud de l'Europe, l'Espagne jusqu'au nord de l'Europe, la Hollande, etc. Et l'étalement urbain. L'étalement urbain, du coup, parce que la route, ce qu'elle permet, c'est d'ouvrir des accès à des endroits qui étaient encore des zones naturelles ou des zones agricoles. Et du coup, de créer un accès routier, ça permet du coup derrière de créer de nouvelles zones d'habitation, de nouvelles zones commerciales et surtout de nouvelles zones aussi d'entrepôts logistiques qui sont connectées donc à ces axes de trafic de marchandises. Donc après, on pourra discuter plus en détail de tout notre argumentaire, mais ce n'est pas forcément l'objet de la conférence de presse. Parce que ce qu'on voudrait vous annoncer aujourd'hui, c'est que du coup, évidemment, il y a aussi toute la question de la pollution, toute la question des destructions. Et en fait, la route, ce qu'elle fait en faisant toujours de nouvelles, c'est qu'elle nous enferme dans ce système du tout routier qui nous empêche de penser des alternatives, de faire autre chose que de la route. Et donc, il y a une urgence face à ça. Et nous, face à cette urgence, et ben, du coup, on se mobilise et on lance du coup une saison d'action cet automne. C'est la saison d'automne de la Déroute des Routes. C'est la Déroute des Routes, quelles que soient les conditions. Vous voulez qu'on arrête? On va s'arrêter.
Alors, attends. Donc après un petit envolage de Barnum, nous voici de nouveau sous un Barnum, toujours en plein vent. Toujours avec, je sais pas comment il s'appelle.
Romain,
donc tu nous parlais de la Déroute des Routes et donc de la saison à venir.
Donc je vous parlais donc de la Déroute des Routes, cette coalition de collectifs en lutte contre des projets routiers. Et du coup, on lance une saison là à l'automne, qui va s'étaler en gros de mi-septembre à mi-novembre, où il y a une dizaine de collectifs parmi les 50 qu'on est, qui quasiment tous les week-ends montent une grosse mobilisation sur leur lutte respective. Et tout ça s'inscrivant du coup dans une saison nationale, avec pour objectif de monter le rapport de force sur la question des routes et d'en faire un vrai sujet en jeu national, voilà, pour pouvoir obtenir des victoires et mettre enfin les routes en déroute. Donc du coup, on annonce la saison officiellement là pendant les résistantes. Du coup, il y a 10 événements en tout. Le premier, ça sera, j'ai la carte sous les yeux parce que je ne les connais pas tous par cœur, ça sera en Haute-Loire le 22 septembre, et le dernier c'est en Ardèche le 25 novembre. Et au milieu, il y a quelques luttes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a Castres-Toulouse notamment, où il y avait eu du coup un gros week-end de mobilisation avec les soulèvements de la terre au printemps dernier, et la voie libre. Donc là, vu qu'en fait l'État a décidé de poursuivre le projet, et pareil le concessionnaire routier, autoroutier, bah du coup deuxième mobilisation en essayant de mettre avec la volonté de mettre le rapport de force un peu plus haut, ça sera les 21 et 22 octobre. La semaine d'avant, il y a le périphérique du Lien à Montpellier, où pareil qui est une lutte qui est assez dense maintenant, et du coup on fait un événement Bloc ton périph le 14-15 octobre, donc on vous invite évidemment à venir nombreux. Et puis je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a 10. Mais sachez qu'on a un stand de la déroute des routes qui est du coup là sur le site des résistantes, où on a du coup un tract avec la petite carte et le planning de toutes les différentes mobilisations. On est là tout le long de l'événement ici, donc n'hésitez pas à venir choper le tract avec les dates, à venir discuter aussi. J'en profite pour dire que sur notre stand commun, il y a aussi un stand du coup de la lutte des sucs en Haute-Loire. La lutte des sucs, c'est Laurent Wauquiez qui veut faire une deux fois deux voies sur une VRN en écrasant quelques centaines d'hectares de terres agricoles et naturelles. Et là, il y a un enjeu immédiat en ce moment sur cette lutte-là, qui fait aussi partie de la saison, sur la consultation publique par voie électronique. Et donc du coup, ils ont tout préparé pour que vous puissiez venir donner votre petit avis en direct sur le stand. Il y a un ordinateur qui est branché, ça prend 5 minutes, et ça permet d'avoir plein d'avis négatifs contre la route, ce qui sert après éventuellement à gagner juridiquement, et en tout cas au moins à avoir de l'argumentaire en plus pour pouvoir se bagarrer et obtenir des victoires.
Juste un peu, on peut juste approfondir un petit point qui est un peu curieux, c'est que tu parles donc du gouvernement et on imagine que c'est concerté ça, mais après on se rend compte que c'est au niveau, souvent à l'échelon local, régional, c'est des projets départementaux, voire régionaux, et qui vont parfois à l'encontre, on le sait, de plans de législation, de nouveaux trucs contre l'artificialisation, et pourtant ça continue. Comment ça se fait justement que cet argumentaire-là, il n'est pas porté, vous le faites le boulot, mais justement au niveau du gouvernement, il n'y a aucune concertation générale, on va dire, concernant les projets autoroutiers?
En fait, alors nous, ouais, ça j'ai oublié de le dire, nous ce qu'on porte du coup justement par rapport à ça, c'est ce qu'on porte ensemble les 50 collectifs, c'est une proposition de moratoire pour suspendre en fait tous les projets routiers en France, ce qui n'est pas une utopie complète, ça existe au Pays de Galles, ils ont déjà fait ça, et ça existe localement en France, il y a deux départements qui ont déjà fait un moratoire de ce type-là, qui c'est en Ille-et-Vilaine et Nantes, en Loire-Atlantique, voilà, et donc du coup l'idée c'est que ça soit étendu partout. Et en fait, les politiques français, ils sont drogués à la route, quoi. Et du coup, il y a une partie qui relève de l'État, qui sont les autoroutes. Et après, pour la plupart des projets, c'est des projets municipaux, régionaux, départementaux. Et du coup, il y a cette passion de la route et cette envie d'inscrire de la part du politicien sa trace dans le territoire avec un petit peu de goudron. Et après, c'est comme toutes les autres questions environnementales. En fait, il y a des lois, il y a peu de lois, mais il y a un affichage sur certaines lois, notamment le zéro artificialisation nette. Mais dans la réalité, le principe, c'est de déroger. Les routes, c'est un tiers de l'artificialisation par an en France. Et un autre tiers, c'est l'entrepôt logistique. Les deux vont ensemble. Et donc, du coup, voilà, la volonté réelle de l'État, elle n'est pas d'arrêter ça. Et c'est pour ça que nous, du coup, de l'État et des collectivités, c'est pour ça que, du coup, on s'allie, on se met ensemble, on monte cette saison pour en faire un vrai sujet et faire bouger les lignes, quoi.
Sur Internet, on trouve où toutes ces infos?
Alors, on a un site Internet, la déroutesdesroutes.com, sur lequel vous pouvez trouver, du coup, toutes les infos sur la saison. Et après, du coup, on va développer aussi toute une com internet à partir de la fin du mois d'août pouvoir être au courant de tout ça, quoi.
Bon. Et dernier mot, venir aux résistantes sur le Larzac, pour vous, du coup, c'était évident? C'est quoi l'intérêt aussi?
C'était évident, d'une part, parce que nous, on est une coalition nationale un peu partout. On est tous dispersés un peu partout en France. Donc on se rencontre régulièrement, deux fois par an. Après, du coup, c'est l'occasion de se rencontrer aussi physiquement et d'avancer plus. Donc ça, c'est super. Et après, ce qui est génial aux résistantes, c'est qu'on rencontre aussi tout plein de collectifs en lutte contre d'autres, contre d'autres thématiques. Là, tout à l'heure, enfin tout à l'heure, ça dépend à quelle heure tu passes le son, mais à 10h, là, on en a regardé une table ronde avec des gens qui bossent sur la logistique, sur la LGV, pour du coup faire un débat commun sur la question du réseau et de comment on résiste au réseau dans sa globalité. Et un espace comme Les Résistantes, bah, ça nous permet de nous rencontrer avec tous ces copains-là pour pouvoir aller encore plus loin au coup d'après dans notre analyse du système et dans comment on le combat. Quoi. Donc, c'est vraiment un super espace. Quoi.
Merci Romain, un dernier mot si tu veux.
Non, bah merci à toi, et puis du coup on vous attend septembre-octobre. Il y a forcément une route à côté de chez vous qui est en train de se construire, il y a forcément une mobilisation,
et c'est pas bien.
Donc n'hésitez pas à venir.
Vous venez d'écouter la conférence de presse de la Déroute des Routes enregistrée par Antoine de Radio Escapade sur le plateau du Larzac lors des Résistantes 2023. Restons sur la thématique de la lutte contre l'autoroute Castres-Toulouse avec un second enregistrement, celui de deux activistes engagés contre l'A69, Thomas Braille et Vincent Verza. Ensemble, ils expliquent au micro de Baptiste de Erdiwa leur parcours, leur philosophie et leurs moyens de lutte. C'était le 5 août, lors du rassemblement écologiste du Larzac, Les Résistantes.
Vous êtes maintenant en direct de cette caravane studio placée au pôle média des Résistantes 2023. Hugo à la technique, merci. Ici c'est Baptiste de RDOA, radio locale basée dans la Drôme, et je suis avec Thomas Braille. Salut à toi.
Salut.
Alors on va commencer un petit plateau avec deux activistes bien connus, Thomas Braille tout d'abord et aussi Vincent Verza qui va arriver dans quelques instants, il est allé chercher un café. Thomas, toi tu fais partie du groupe national de surveillance des arbres, dis-nous qu'est-ce que c'est avant qu'on, qu'on situe un peu ton action là où je pense que les gens te connaissent finalement.
Alors, je me définis pas comme activiste. Moi, je me définis comme grimpeur arboriste et fondateur d'une association de défense des arbres et comme citoyen français. Voilà, c'est tout. Moi, ça me va.
Ah ouais.
Après, ouais, ouais. Je suis pas mal connu parce que j'ai fait plein d'actions médiatiques, notamment en grimpant des arbres, la plus médiatisée. Enfin, il y en a eu beaucoup, en fait. La première fois, c'était il y a 4 ans, 28 jours, dans un platane devant le ministère de la Transition écologique à Paris, pour alerter sur la problématique des arbres. Après, j'ai passé 11 jours à côté de la Tour Eiffel, dans un platane, dont 6 jours en grève de la faim, contre un projet de bagagerie qui devait se faire au pied d'un des plus vieux platanes de Paris. Et puis là, sur la 69, récemment, on a bloqué le chantier de la 69, donc les arbres sont toujours debout. Les platanes, et voilà, pour des projets écocides, toujours, quoi.
Et alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est la grimpe d'arbres? Enfin, c'est-à-dire, c'était quoi ton travail? Qu'est-ce qui t'a amené à grimper dans les arbres, avant, justement, de le faire en action?
Ben, disons que c'est ma profession.
Mais c'est quoi, alors? Ça consiste à quoi?
Moi, j'ai une entreprise qui fait du soin aux arbres et qui fait aussi de l'abattage quand il y a vraiment besoin d'en faire sur des lieux publics, quand les arbres sont malades. Mais moi, ça fait 28 ans que je fais ce métier, que je suis connecté, je suis aussi paysagiste, voilà. J'en avais ras-le-bol de voir comment on traitait les arbres dans la profession, de voir comment on avait peu de considération pour ces arbres d'alignement qui sont juste magnifiques et qu'on est en train de perdre en bordure de nos routes. Du coup, on allume la clim, on consomme un cheval de plus. Puis après, je me suis focalisé aussi sur les forêts parce que moi, j'habite dans le Tarn et il y a beaucoup de coupes rases. Et en fait, on fait un bruit médiatiquement, on fait un bruit de dingue, quoi. Et ça fonctionne, et tant mieux, quoi, parce qu'il y a besoin... Il faut savoir que l'arbre, il est en haut de la pyramide du vivant. Hein. Si on l'enlève, il n'y a plus possibilité pour nous de vivre, pour les animaux de se reproduire et tout. Donc, il est vraiment en haut et ça, on n'en a pas encore pris conscience, j'ai l'impression, quoi.
C'est marrant que tu parles de soins d'arbres en tant que paysagiste, parce que souvent, les paysagistes de bord de route, hein, ils viennent avec... Des vilaines tronçonneuses élaguées de manière assez anarchique, on comprend pas. Alors, vas-y, dis-nous un peu, ce soin, c'est quoi? C'est une taille particulière, mais ou c'est aussi peut-être carrément mettre des pansements à des arbres? Enfin, je te pose une question con, mais...
Alors, il faut savoir une chose, c'est que les arbres n'ont pas besoin de nous, mais nous avons grandement besoin d'eux. Donc, quand on dit qu'il faut tailler les arbres, c'est faux. Les arbres, la taille, c'est une invention de l'homme. Si on veut parler d'un article de loi que je défends depuis longtemps, c'est le L350-3 du Code de l'environnement, qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement en bonne santé et aussi de porter atteinte aux alignements d'arbres. Donc si vous voyez des arbres en bordure de route qui sont abîmés, abattus ou dans les même dans les villes, hein, puisque tous les arbres dans les villes sont en alignement, eh bien vous pouvez demander à savoir s'il y a une dérogation qui a été accordée pour ces abattages. Et surtout demander le diagnostic phytosanitaire, hein, parce que si on ne démontre pas qu'un arbre est malade, il n'y a pas de raison de l'abattre, quoi. D'accord? Voilà, c'est important, ça.
Ouais. Ce code de l'environnement, là, j'avais rencontré un peu plus tôt des avocats en droit en l'environnement. C'est vraiment quelque chose qu'on a l'impression de, d'abord d'une part de pas connaître, mais aussi qu'on sent moyennement efficace.
Oui, tout à fait. Pourtant, il y a des articles de loi. Après, voilà, moi, clairement, je le dis, hein, aujourd'hui, créer un GNSA dans votre ville, un groupe national de surveillance des arbres, ça fleurit. Mais alors, on a des demandes toutes les semaines de création de GNSA un petit peu partout en France. Et aujourd'hui, les citoyens, vous aurez du coup une portée médiatique importante. Et nous, on forme, on explique. Maintenant, on va sur le juridique avec l'asso parce qu'il y a de l'argent dans les caisses. Là, je vais aller à Vichy semaine prochaine pour dénoncer. On a assigné la ville de Vichy en justice parce qu'ils vont abattre... plus de 200 ou 300 arbres sur le parc des sources. Tout ça, encore une fois de plus, pour avoir des places bien minérales où on va crever bien de chaleur, alors qu'on sait aujourd'hui l'importance des arbres, quoi. Donc vraiment, il y a une réelle importance. Et voilà, et sur les forêts aussi, alertez-nous quand il y a des coupes rases et tout, des transformations de forêts de feuilles diversifiées en parcelles, en plantations de monoculture de résineux. Il faut arrêter ce genre de bêtises. Aujourd'hui, on a besoin du bois. On n'est pas des extrémistes, nous, dans l'asso. Mais il faut utiliser la forêt intelligemment et raisonnablement, toujours en gardant un couvert végétal, quoi.
Alors, cette association, Groupe National de Surveillance des Arbres, est-ce que tu peux nous expliquer un peu son fonctionnement, comment on la rejoint? Et puis, tu nous as commencé à nous parler de groupes locaux. Comment ça se passe?
Alors, comment ça se passe? Bien, c'est simple. Vous nous contactez, vous demandez à créer un groupe, on vous crée les pages Facebook. On s'occupe un petit peu, après moi, de relayer au National avec l'équipe de com. On fait des posts Twitter, voilà. Et en fait, la visibilité du Groupe National de Surveillance des Arbres, elle est très importante parce que moi, les premières actions que j'ai faites, j'ai tenté tendu mon téléphone, tout simplement, en disant « je me trouve ici à tel endroit, derrière moi, les arbres vont être abattus demain, il y a un vrai problème et tout ». Ça part sur les réseaux, c'est viral, boum, et puis c'est comme ça qu'on arrive à sauver. La presse s'en empare parce qu'aujourd'hui, les médias ont compris que l'arbre, on en a vraiment besoin et que les journalistes sont des enfants aussi. Donc parfois, ils préfèrent suivre nous que les recommandations des élus ou des politiques. Et puis comme ça, eh bien, on arrive à désamorcer les sujets, on fait venir les médias, les télés, les machins. Ils n'aiment pas trop ça, quoi, les élus, quoi, parfois. Hein.
Donc on va dire le travail des gens qui seraient bénévoles dans leurs groupes locaux, c'est de faire remonter le plus possible dès qu'on a l'impression qu'il y a une atteinte à un arbre, à un espace arboré, à une forêt.
Oui, voilà, tout à fait, c'est ça.
L'idée. En vigilance, quoi.
Oui, c'est ça, ben, comme le nom de l'association, Groupe National de Surveillance, on surveille. Autant que parfois on peut être surveillé par l'État, eh ben, nous on surveille ce qui se passe avec les arbres, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Voilà.
Et tu dirais que les principales atteintes justement aux arbres, c'est des grands projets inutiles aujourd'hui ?
Moi, je suis désolé de le dire. Après, moi, je ne suis pas contre tout. Hein. Je ne suis pas contre le fait de faire des aménagements, notamment dans les villes et tout. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui aux urbanistes, aux aménageurs urbains et tout, qu'on peut fonctionner avec les arbres existants. Pourquoi aller couper Chambéry en ce moment, c'est 108 arbres, 108 platanes d'une soixantaine d'années qui vont être abattus pour refaire une avenue ? Donc, pourquoi ne pas refaire l'avenue en préservant le végétal existant ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les jeunes végétaux qui sont plantés, en plus de ça, on plante des arbres qui ont déjà une dizaine d'années pour que c'est un rendu joli et de suite aux yeux des citoyens. Mais c'est une hérésie de faire ça parce que ces arbres-là ne reprennent pas. Avec les canicules, ils ont un système racinaire qui est faible, ils ont été arrachés de pépinières, donc ils n'ont plus suffisamment de racines pour s'alimenter. Et ces arbres-là, on en a constaté beaucoup qui sont morts, déjà via la canicule de l'année dernière, mais ça ne marche plus. Alors que quand vous avez un vieil arbre qui a une centaine d'années, qui est bien implanté avec un système racinaire puissant, qui en plus de ça pousse dans des univers dégueulasses, hein, parce que c'est du béton, du bitume, dessous c'est du remblai, il peine déjà à se mettre en place, il est déjà là depuis longtemps. Et cet arbre-là, ben lui, il passe les canicules. Donc, préservons les vieux arbres, s'il vous plaît, quoi.
C'était justement la question que j'allais te poser. Là, je pensais à la ville de Sète qui refait sa plus grande place, qui a coupé des vieux arbres et qui a planté des nouveaux.
Voilà, ben on a un GNS à Sète, donc je sais de quoi tu parles. Toutes les problématiques des arbres en France, si tu veux, je suis au courant de tout. Parce que, enfin, en tout cas, sur les arbres urbains, j'ai envie de dire, après, Canopée fait un super boulot, on travaille avec eux aussi en collaboration. Mais vraiment, sur ce qui est l'arbre urbain, on est la seule association en France à s'occuper de ça parce qu'il y avait un vide à Donc, 7, je connais, le GNSA 7, il est créé. On est allé les soutenir. Je suis même allé porter la voix le soir où il y avait une émission télé sur France 2 aux arbres citoyens. Et j'ai porté la voix. Voilà, on a posé la question au ministre qui était venu, donc M. Béchu. Et puis les arbres, ils sont tombés, quoi, quand même, hein, malgré la mobilisation. Et là, on fait un gros parking et tout le monde va crever de chaleur en plein cœur de 7. Alors qu'il y avait des tilleuls qui avaient déjà une quinzaine d'années, qui promettaient un avenir et une place bien fraîche dans 10 ou 20 ans, encore plus. Et là, il n'y a plus rien. Voilà.
Pourquoi c'est passé, ce bétonnage ?
Pourquoi c'est passé ? Parce qu'il y a eu des recours en justice qui ont été faits. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans les tribunaux... il va falloir que la jeune génération des juges arrive. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a très peu de jugements qui sont rendus en faveur de l'environnement. Et puis, face au BTP, encore, c'est compliqué. Le BTP est puissant, quoi. Donc, dès qu'il décide de faire un parking et de couler du béton, eh bien, les tribunaux vont dans le sens du BTP, quoi. Mmh. Voilà.
Et toi, tu es allé complètement à contre-courant d'un métier, j'allais dire, type de paysagiste. J'ai jamais fait cette formation, mais... Donne l'impression que tu as tout jeté pour...
C'est pas que j'ai tout jeté, c'est que moi j'ai toujours eu une sensibilité et je fais pas ce métier pour tuer le vivant. Moi je fais ce métier en bonne intelligence avec le vivant. Je soigne les arbres quand il faut, moi je mets des haubans dans les arbres quand les branches on pense qu'elles peuvent casser plutôt que de mettre un arbre, lui mettre la tête à la boule à zéro en pétant toutes les charpentières. Donc il y a d'autres solutions et d'autres préconisations à faire. Je repars parfois de chez des clients en leur disant cet arbre-là je ne vous le coupe pas parce qu'il a tout intérêt encore à... Il est tout bénéfique pour vous. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à refaire confiance aux arbres. On a perdu la confiance qu'on peut avoir dans les arbres. Mais quand vous avez des ouragans, je peux vous assurer que les toitures des maisons, elles sont arrachées avant qu'un arbre soit par terre. C'est résistant un arbre, il ne faut pas l'oublier quand même.
Donc en fait, tu as aussi tout un rôle
pédagogique,
pédagogique et plutôt de préservation, quoi. C'est...
Ouais, c'est exactement ça. Mon rôle, c'est d'expliquer aux gens qu'un jeune cèdre de l'Atlas dans son jardin qui a 20 ans ou 30 ans, il n'est pas prêt de tomber, quoi. Enfin, le truc, il est juste ancré, il est là, quoi. Et avant, dans les grandes cours de ferme, tu avais un magnifique arbre au milieu de la cour, un vieux chêne qui couvrait l'intégralité de la toiture pour justement ombrager, éviter qu'il fasse chaud. Et les gens, ils n'avaient pas peur. De temps en temps, tu as une branche qui se casse, mais elle reste coincée dans le houppier. Ça, c'est une branche.
Ah,
c'est...
mais les feuilles dans les tuiles, c'est chiant.
Ouais, voilà,
dans
c'est
le chenot.
Et c'est comme ça qu'on perd des arbres. Ouais, ouais, ouais. La première action à Mazamé, ils voulaient abattre un alignement de 9 platanes. Tout ça parce qu'une dame s'était plainte en disant voilà, il faut couper les branches, il faut couper les feuilles parce que c'est dans mes chenots. Mais il faut arrêter tout ça, quoi.
Et j'ai aussi entendu dire que ces grandes allées de platanes ou ces places pleines de platanes, les platanes ne s'aimaient pas entre eux, du coup ils tombaient malades, et que c'était pour ça qu'il fallait les enlever.
Oui, après comme on dit, si tu vas battre ton chien, tu dis qu'il a la rage, hein. Tu vois, voilà.
Excellent. Thomas, peut-être pour terminer, sur tes actions d'accroche d'arbres, comment tu procèdes? Est-ce qu'on peut, nous aussi, nous autres... auditrice, auditeur qui est un peu chaud de ce genre d'histoire, dans ta manière d'interpeller, comment tu procèdes?
Oui, j'ai envie de dire que rejoignez le GNSA, on a une belle équipe de grimpeurs qui bloque les abattages, hein, parfois tout simplement. Après, moi, comme je dis, je suis pas anarch, quoi, mais j'aime la loi, mais il faut que la loi elle soit rendue en faveur des arbres quand c'est utile de le faire.
Bah, tu t'appuies sur le droit, code à l'environnement, donc
toujours.
T'aimes la loi, oui.
Moi, je ne fais jamais une action sans m'appuyer sur des textes législatifs. Donc, ce qui fait de moi un bon citoyen français, mais par contre, si tu respectes pas la loi, on est là, quoi. Point.
Donc du coup, dis-nous comment tu procèdes. Donc tu grimpes dans un arbre et après c'est quoi? Tu t'installes, il y a un bivouac, vas-y, j'aimerais...
Je peux te faire, te dépeindre un petit peu l'action de la 69. La 69, moi j'arrive, je mets une tente de paroi rocheuse. Donc c'est vraiment une espèce de sachet de thé qui est pendu dans l'arbre, si tu veux, et qui prend pas du tout la pluie, donc tu es super à l'aise. Voilà, on fait des squats là-haut et voilà, moi j'avais 80 CRS au pied. Quand même, j'étais seul face à 80 CRS, j'avais le PSIG, c'est les grimpeurs de la gendarmerie qui voulaient me déloger. Avec nous, ils jouent pas trop parce qu'on est des pros, quoi. Tu vois, les déplacements dans l'arbre, c'est notre métier. Ils sont habilités à grimper ailleurs, mais pas dans des arbres. C'est un autre univers, la grimpe d'arbre. Et voilà.
Par exemple, donc ils grimpent dans l'arbre et toi, tu bouges.
Non, ils grimpent pas du tout. Honnêtement, je veux pas me grossir les chevilles, mais ils jouent pas avec les pros, quoi.
Ouais.
Moi, je leur ai dit, les gars, montez pas, ça va être difficile de me descendre, c'est mon métier, quoi. Nous, c'est notre quotidien, on est dans les arbres toute l'année, quoi. Donc aller sortir un grimpeur, c'est chaud, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est pour ça qu'on a des pros avec nous maintenant.
Et puis se faire gazer à 30 mètres,
ouais,
ça marche
pas. C'est pas possible. Et du coup, si tu veux, moi j'ai de bons rapports avec les forces de l'ordre parce que je leur parle en toute bienveillance, tu vois. Il s'appelait Philippe, là, le gars du PSIG, de la gendarmerie, il avait le mousqueton, il avait son harnais, il était prêt à grimper. Je dis, écoute, Philippe, je dis, franchement, on en reparlera dans 30 ans de ça, peut-être sur le comptoir d'un bar, et on dira, ben, c'est vrai que ce projet, heureusement qu'il s'est pas fait, c'était débile, tu vois. Mais je dis, t'as des enfants, Philippe? Il me dit, ouais, ben voilà. Tu ne montes pas, Philippe, tu vas me mettre en danger parce que je vais monter plus haut, je vais me détacher, les branches sont petites, je vais tomber. Tu vois? Donc voilà. Mais ça se passe super bien, moi. Moi, les gendarmes, ils m'aiment bien, honnêtement, quoi. Parce que je suis respectueux. La dernière fois, j'ai fait une garde à vue, mais parce que j'étais au sol. Parce que moi, quand je suis dans un arbre, on ne me descend pas. Je me suis mis face à une pelle mécanique, ils voulaient creuser à 2 mètres du système racinaire d'un platane. Donc moi, j'ai bloqué en disant non, le L353-3 s'applique à la teinte que vous allez porter à l'arbre parce qu'il n'y a pas que du houppier, il n'y a pas que des feuilles, il y a des racines. Donc là, la pelleteuse, elle allait péter. Bon, ils m'ont pris, j'ai fait 24 heures de garde à vue, mais moi, c'est Monsieur Bryce, ça va bien, vous voulez un verre d'eau, voilà, ils sont bienveillants. Moi, je suis bienveillant.
Ouais, alors, les éco-terroristes sont bien traités par la gendarmerie?
Non, mais alors, attends, moi, je vais dire un truc, j'ai rien après les forces de l'ordre, moi, honnêtement. Après, peut-être il y en a, ils vont me dire oui, mais peu importe, c'est ma philosophie. Moi, j'en ai après les donneurs d'ordre, d'accord? Ces gars-là, ils font leur job. Voilà, ben, ils doivent aller sortir des militants, des machins, on leur dit allez faire ça, ils le font. Après, on peut remettre en question le fait, est-ce que moralement, ils pourraient se dire, ben, aujourd'hui je me porte pas, allez, j'y vais pas. Ça pourrait être cool aussi pour nous. Mais c'est pas après, vraiment pas après eux que j'en ai. Moi, c'est après les donneurs d'ordre, tout simplement, quoi. Voilà.
Pour toi, c'est quoi les prochaines étapes pour que justement ces donneurs d'ordre entendent un peu que maintenant ça devient important? Tu parlais que la jeunesse s'empare de la magistrature. C'était aussi ce que disaient les avocats, que maintenant il va falloir qu'il y ait peut-être des meilleures formations, même au sein des écoles d'entrée de jeu. Est-ce que tu vois autre chose, toi?
Oui, moi je vois vraiment autre chose. J'arrête pas de le dire dans toutes les interviews. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir une formation obligatoire de toutes les personnes qui veulent avoir un poste, autant que ce soit un poste politique que d'élu dans une mairie ou quoi que ce soit. Il va falloir qu'ils aient un minimum de formation obligatoire à l'environnement. On ne peut pas donner les rênes d'une collectivité, d'une mairie ou de poste au ministère à des personnes qui sont incompétentes. Je suis désolé, aujourd'hui l'urgence elle est vraiment sur le climat. Donc si tu n'as pas de compétences un petit peu dans le climat, tu ne prends pas le poste. Et j'ai envie de dire, ce serait une formation même diplômante. Tu l'as, tu peux être politique. Tu ne l'as pas, tu n'es pas politique. Point quoi.
Donc une formation adulte.
Une formation adulte, voilà.
Ouais. Donc,
c'est ça.
Tu fais pas partie de ceux qui voudraient commencer dès l'école.
Mais bien entendu. Mais ça, c'est logique.
Je rigole, hein.
Non, mais c'est logique, bien sûr. Même nous, on travaille avec les écoles, on forme les enfants. On a même créé. On a même créé un arbre, une école pour remettre des arbres dans les cours d'école. C'est le BABA. Ouais. On a créé au sein du GNSA un arbre, une école. Parce que tu peux pas dire à un gamin, lui parler d'environnement, si dès qu'il sort dans sa cour d'école, t'as du béton, du bitume. Et moi, c'était le cas pour mon fils. Mais crois-moi que la mairie, ils se sont vite mis au pli, quoi. La mairie de mon petit village, j'ai eu mes deux arbres, ils y sont, quoi. Ils sont plantés. Et mon gamin, il va être à l'abri des rayonnements solaires. Parce qu'un vendredi à midi du mois de juin, on m'a demandé de venir chercher mon gosse parce que le bâtiment était trop ensoleillé et qu'il faisait trop chaud dans la classe. Avant, il y avait des arbres dans les écoles. Moi, j'avais des platanes dans ma cour d'école. Mm-hmm. Voilà.
Et on en connaît quelques-uns de ces établissements scolaires avec que du béton. Thomas Braille, si je te pose pas de questions, qu'est-ce que tu as envie de dire maintenant, librement?
J'ai envie de dire... j'ai envie d'adresser une parole à mon fils, lui dire que je l'aime et que ce que je fais, c'est pour lui, quoi. Voilà.
Et il le sent, il le voit?
Ah ouais, il le sait, ouais.
Il le sait?
Ça, il le sait.
Et tu lui as appris à grimper dans les arbres?
Ah ouais, oui, il a déjà 3 ans, il montait à 17 mètres. Il avait même ton petit baudrier et tout, j'ai fait de belles vidéos là-dessus, ouais. Ouais. Après, j'ai pas envie forcément qu'il fasse ça, hein. Moi, je le fais pour pas que lui le fasse et qu'il se fasse gazer dans 10 ou 15 ans et qu'il soit encore dans des manifs. J'en ai ras-le-bol, en fait. On est que de passage sur cette planète. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la peur qui nous empêche d'avancer. Mais la seule peur qu'on doit avoir, c'est du mur qu'on va prendre demain si on fait rien aujourd'hui. C'est ça le plus important, quoi. Voilà.
Merci Thomas.
C'était cool, merci à vous.
Et ce groupe national de surveillance des arbres, une association à aller découvrir sur des réseaux. Il y a Internet, il y a tout ça.
Sur Facebook, sur Twitter, on est partout, quoi.
Voilà.
Ouais, voilà. C'est cool.
Facile. Et on accueille au micro Vincent, salut Vincent Verza, ou Partager c'est sympa.
Tout à fait.
Tu connais bien Thomas?
Oui, ça va?
Ça va poteau?
Ouais, excellent.
Vous avez fait des trucs ensemble?
Ouais, on était en tout cas sur plusieurs mobilisations ensemble, Casse-Toulouse par exemple, et puis sur les forêts en vrai, moi j'ai bien charbonné aussi. Non, il faut pas dire charbonné parce qu'on veut décarboner l'économie, mais j'ai bien travaillé sur les forêts, et clairement GNSA est au taquet, hein. C'est bien, il en faut.
On était à Bordeaux tous les deux.
Ouais, on était à Bordeaux. Canopé. C'est vrai ça. Ouais.
Alors comment tu te présenterais Vincent si tu devais le faire et bien que sans doute tu étais un peu rompu à l'interview médiatique, je pense, non?
Eh ben non, pas du tout. C'est pas une pratique que j'ai.
Pourquoi?
Parce que tu
refuses?
Je considère que j'ai déjà un média en fait, donc oui, pourquoi aller sur les médias? Tu vois, mais bon, la radio résistante, c'est un peu différent.
Bon, c'est gentil. pourquoi aller sur les médias, par exemple, pour avoir plus de vues encore?
Non,
pourquoi faire un rap? Pourquoi jouer en concert?
Moi, c'est des moyens d'expression, quoi. Et par exemple, j'ai pas du tout la prétention de parler à tout le monde. Moi, ce que j'ai envie, c'est de raconter l'enjeu et de donner directement les moyens de s'engager sur cet enjeu. C'est ça, mon truc. Donc, je vais pas aller chercher tout le monde, mais par contre, je vais construire un vrai raisonnement qui nous permette de légitimer les actions qu'on est en train d'entreprendre. Et il y a un vrai enjeu là-dessus, effectivement, par rapport aux médias. Tu vois, si j'avais été sur les médias juste après Sainte-Soline, j'aurais été beaucoup moins bon que le travail que j'ai fait, en l'occurrence, d'analyse des arguments pour les méga-bassines, puis de déconstruction de ces arguments, et à la fin de montrer l'action, et y compris la violence policière qui s'est abattue, quoi. Je pense que c'est dans ma place. Donc moi, je suis vidéaste activiste, journaliste, au sens où j'essaie de compiler et de vérifier des informations sur l'état du monde. Et activiste parce que clairement pour moi il faut qu'on s'engage quoi.
Comment tu commences cette histoire là?
Comment j'ai commencé Partager Sympa, tu dis?
Ouais.
Eh ben franchement,
même c'était... à être activiste ou vidéaste journaliste, est-ce que t'as fait une école?
Non, bah alors moi j'ai fait des études en relations internationales jusqu'au master à Genève. Et du coup, j'ai à la fois travaillé avec ceux qui aujourd'hui dominent le monde, en fait, tu vois, les futurs ambassadeurs, les futurs présidents des pays et tout. Et j'ai réalisé du coup que le monde était vraiment une construction et qu'on avait tout à fait le droit, si on avait quelques outils, par exemple la sociologie, l'anthropologie, de vouloir le déconstruire et de le construire autrement. Donc ça, c'est la première légitimité. J'avais créé un club de débat à l'époque, donc le fait d'ouvrir ma gueule, ça, c'était bon. Et après ça, l'écologie, c'est arrivé très rapidement parce que justement, des relations internationales, j'ai suivi le sommet de la Terre à Rio, plus 20, et j'ai réalisé que les États allaient nous tuer et que donc, il fallait qu'on s'engage et qu'il y ait un mouvement militant large. Là, j'ai commencé à beaucoup regarder des docus sur l'enjeu climat et à travailler en tant que vidéaste avec des associations. Mais mes vidéos étaient très peu vues en fait et restaient pour le coup vraiment dans un écosystème presque de salariés d'associations qui partageaient la vidéo de leur action, alors que moi le contenu que j'aimais regarder sur internet c'était des gens qui me racontaient leur histoire que je revoyais tout le temps, tu vois, une tête connue quoi, en qui j'avais confiance. Et du coup je me suis dit mais c'est ça qu'il nous faut pour le mouvement climatique comme on l'appelait à l'époque, il nous faut une tête qu'on va apprendre à connaître vidéo après vidéo et qui va servir de tiers de confiance pour toutes les luttes. Et c'était ça le pari de Partager Sympa dès le début. Au début, j'ai fait le tour de toutes les associations que je connaissais et j'aurais dit voilà, je vais lancer ce projet. Il y a certaines des assos qui ont un petit budget pour financer les vidéos. Financez-les parce que comme ça, toutes les autres vont en bénéficier. Parce que plus je ferai des vidéos, plus il y aura de monde qui les suivra et plus ça bénéficiera à tout le monde, quoi.
Et on t'a cru?
Ah, on m'a cru. Franchement, c'était magnifique. Il y a une confiance énorme dès le début. Et voilà.
Tu veux les citer, ces premières assos qui t'ont soutenu, qui ont permis le développement?
Ouais, tu vois, c'était avec Oxfam, avec le RAC, le Réseau Action Climat, 350.org France, et ANV COP21, Alternatiba. Ouais, ça c'était le point de départ hyper important, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, la communauté Partager Sympa, elle continue de rendre service à tout ce beau monde. Je l'espère, ouais.
Mais on pourrait s'étonner, pourquoi est-ce que c'est toi que ça... Enfin, c'est parce que c'était ton idée, parce que c'était le bon moment, ou parce que...
Ouais, en fait...
Pourquoi toi, Vincent?
En fait, c'est très difficile de... Dans mon petit sac de ressources que j'utilise pour faire les vidéos, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à accumuler. En général, c'est une équipe qui le fait. Moi, là, je travaille seul depuis un an et demi. Avant, j'avais une équipe de 3 personnes. Mais du coup, il faut savoir tourner, monter, première chose. Donc ça, c'est un savoir-faire technique. Il faut savoir raconter une histoire, de la narration. Il faut savoir lire des rapports, les comprendre, les vulgariser. Et après ça, il faut presque du théâtre, en fait, incarner le truc, envoyer de l'énergie dans la caméra. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire Partager C'est Sympa plutôt que, par exemple, prendre un job de coordinateur vidéo dans une asso comme on me l'a proposé, en fait.
Tu poses tout ça sur Internet, YouTube, est-ce que ça te pose un problème ou pas? On y va tout de suite.
Ouais, moi je suis vraiment dans la bataille des idées, j'ai envie d'être là où les gens sont actuellement au niveau de la vidéo. Tu vois, j'en parlais même avec les copains qui font PeerTube. Et je réfléchissais avec eux parce qu'on était dans les mêmes locaux à Lyon et ils me disaient non, mais toi, faut que tu sois sur YouTube en fait. Parce que mon objectif, c'est quand même de réussir à créer des espèces de buzz et d'essayer d'être la vidéo. Tu vois, par exemple, quand tu tapes méga bassine, je suis peut-être la deuxième ou troisième vidéo et c'est là que j'ai envie d'être en fait. J'ai envie d'être les gens qui essayent de se renseigner sur un sujet qui a fait de l'actu, sur lequel il y a une mobilisation qui a pu justement crisper ou polariser. J'ai envie qu'ils trouvent ma vidéo dans cet espace-là auquel ils ont l'habitude pour justement mener la bataille des idées, la bataille des imaginaires, la bataille des arguments en fait.
Et donc t'es activiste franchement engagé dans l'écologie, est-ce que ça te joue des tours est-ce que ça te freine dans ton activité? Quel est ton rapport à l'État, aux forces de l'ordre?
Ouais, c'est un petit peu étrange au sens où, par exemple, voilà, Sainte-Soline, il y a eu 5000 grenades et ça a traumatisé énormément de militants. À cet endroit-là, je me sens un petit peu chanceux d'avoir eu une mission. Tu vois, j'étais vraiment animé par l'idée de, il fallait filmer ce qui était en train de se passer. Et du coup, certes, il y avait des grenades, mais j'étais tellement dans un état d'esprit de capturer le moment que presque je suis passer à côté du caractère traumatisant de la chose. Après, on a
tous... T'es pas le premier à dire ça, ouais, parce que Polémique Slava Off a fait un reportage, il s'est pas du tout rendu compte, par exemple, que des gens étaient en train de, voilà, de tomber dans le coma à 10 mètres de...
Moi, je m'en suis rendu compte, pour le coup, parce que, entre autres, je les ai filmés, et du coup, je m'en suis vraiment rendu compte, mais ça a encore plus renforcé mon espèce de sentiment de devoir et de mission. Alors que ce qui était insupportable et hyper difficile à vivre, à mon avis, pour les militantes et militants à ce moment-là, c'était de se retrouver coincé, d'avoir l'impression que c'était absurde et de pas pouvoir en sortir, quoi. Ça doit être... C'était hyper dur. Mais par rapport aux forces de l'ordre, moi, on vit tous un peu dans une forme de peur. Le fonctionnement même de la dissolution, c'est à l'État de décider qui est-ce qu'il veut dissoudre. En fait, ils vont faire leur propre liste au moment qu'ils vont choisir opportun. Donc, on sait qu'on est tous et toutes sur une espèce de siège éjectable et on ne sait pas quand ça va nous tomber dessus. Mais pour le coup, c'est ça qui fait du bien aux résistantes, c'est de se retrouver, de se serrer les coudes, d'être fier aussi, célébrer. Moi, je crois vraiment en ça. On a besoin de célébrer tout ce qu'on a fait parce que c'est énorme. La séquence politique qui vient de se vivre là, et de se renouveler aussi, on a besoin de roulement là chez les militants pour qu'il y en ait qui puissent se reposer, quoi.
Énorme en quoi? Énorme justement en mobilisation, en intensité, et donc non mais, d'où l'intérêt de renouveler.
Là tu vois, une chaîne YouTube, ce qui est intéressant, c'est que tu tiens un propos, tu diffuses un imaginaire de lutte, et année après année il évolue. Et moi je sais très bien qu'il y a 5 ans je rêvais de ce qu'on a réussi à faire cette année. Je rêvais qu'il y ait des actions comme celle sur Lafarge à Bouc-Bel-Air, 200 militants qui arrivent à causer 4 millions de dégâts dans une usine qui a été condamnée pour avoir pollué l'air. Et ben là, elle se prend le revers de la médaille, quoi. Et je rêvais d'un mouvement de masse qui ait ce désir de faire une manif action, en fait. Moi, c'était un truc, tu sais, quand on était en plein dans les marches climat, là, en 2017-2016, ce dont je rêvais, c'est qu'on sorte de la manif tout court pour passer à la manif action. Et là, on y est. Ça y est, il n'y a plus que des manifs action partout en France. Moi, je suis pour le désarmement des infrastructures polluantes, d'autant plus lorsque tous les recours démocratiques ont été épuisés. Je pense que c'est nous réduire à l'impuissance et en plus nous faire un espèce de nœud au cerveau de ne pas nous autoriser à faire des gestes de désarmement.
J'appelle ça désarmement. Donc, casser, c'est on désarme.
Bah, ça dépend ce que tu casses, hein. Mais moi, justement, je suis pour un désarmement très actif. C'est-à-dire, il y a vraiment quelques machines, quelques entreprises qu'on est tout à fait en droit de cibler. Et justement, cet exemple de Lafarge qui fait vraiment peur à l'État, et ce pourquoi il y a beaucoup de monde là qui a passé du temps dans les bureaux de la sous-direction antiterroriste, c'est parce que c'est une pertinence folle. Lafarge, on connaît son rôle dans le financement du terrorisme avec Daesh en Syrie. On connaît l'impact du béton qui est énorme sur la pollution de l'eau, de l'air et même de la bitumisation des terres. En fait, c'est définitif ce qui se passe. Et aller comme ça directement là où la pollution se crée, à un poste en plus de dépenses pour l'entreprise. Ben, moi, je trouve ça ultra pertinent et c'est pour ça, entre autres, que les militantes et militants se font mettre en garde à vue et procès par la suite. Ouais.
Et tirer-tu ? Est-ce que tu t'es déjà fait tirer dessus en tant que journaliste ?
Alors, c'était un petit peu étrange, la dernière manifestation là, contre le projet de train Lyon-Turin. C'était étrange au sens où j'ai filmé les lignes de policiers à des moments où c'était calme et je les ai vus dire « c'est le YouTuber ». Donc me reconnaître en tant que le youtubeur partagé sympa. Et ensuite, à un moment très calme de la manif, calme au point où j'avais enlevé mon masque à gaz et mes lunettes et il ne me restait plus que mon casque, bah, y a trois grenades non explosées, trois grenades lacrymogènes. Wow, lacrymogène.
Dimanche matin, ouais, ça ouais, fait ouais, longtemps, ouais. Les résistantes c'est long.
Ouais. Qui sont tombées vraiment toutes les trois autour de moi alors que c'était un lieu de non-lutte en fait. Et donc ça m'a fait bizarre. Je me suis
dit. C'est la première fois.
C'était la première fois, ouais, pour moi.
Et donc t'es de plus en plus vu, de plus en plus suivi. Peut-être qu'à un moment donné tu seras plus en plus.
Ouais, c'est la rançon du succès, hein, quelque part. Après, ouais, je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut faire contre ça de toute façon. Et encore une fois, quand je compare, quand je filme, je suis à côté de militants et militantes qui sont souvent moins protégés que moi, en fait. Moi, ça, c'est un truc qui me fait flipper, c'est que je me dis, putain, j'aimerais bien que tout le monde ait des casques quand même. parce que vu ce qu'on prend sur la tronche, c'est hyper important. Donc voilà, je relativise toujours les risques que je prends. Je me considère aussi vraiment privilégié parce que je suis protégé par mon statut. Les militants et militantes là qui se font mettre en garde à vue et qui risquent des procès, c'est souvent des personnes inconnues en fait au bataillon, et c'est aussi pour ça qu'elles sont ciblées, parce que c'est plus dur, beaucoup plus dur pour elles de se défendre, entre autres parce que souvent elles ont cultivé un mode de vie qui très activement loin des médias, très activement loin de la lumière en fait. Donc moi à cet endroit là je me sens protégé, c'est d'ailleurs ce que me dit mon avocate, elle me dit mais juste s'ils t'attaquent en justice ils sont débiles parce que ça va faire encore plus de bruit, encore plus de buzz. Et pour le coup, j'ai le soutien de beaucoup de journalistes plus établis. Moi, j'ai pas de carte de presse. Mais donc, je sais que si je me fais attaquer en justice, en tout cas, j'aurai ce soutien-là d'organes de presse bien établis, quoi.
C'est quoi tes prochains lieux, là ? Tu nous spoiles quelques prochaines vidéos ?
Alors, j'ai plusieurs trucs sur le feu. J'ai envie de raconter cette histoire de Bouc Belair, là, cette histoire de l'usine Lafarge, parce qu'en fait, on la connaît peu. En m'appuyant, évidemment, je veux rassurer les militants et militantes sur que des articles qui sont sortis dans la presse, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se mette en danger les uns les autres en divulguant trop d'informations. Mais je pense que c'est très notable ce qui s'est passé. Et quand on voit la note des renseignements qui justifie la dissolution des soulèvements de la Terre, on voit que c'est vraiment un truc qui les a fait flipper, quoi. Donc ça, j'ai envie de raconter ça. Et dans le même temps, c'est mon équilibre mental. Je fais aussi un court-métrage sur les blaireaux. Juste à côté de chez moi, il y a une famille de blaireaux qui s'est installée au milieu de mon village. Et c'est vraiment raconter justement ce rapport au vivant en fait qui nous entoure. On passe devant en permanence, ils vivent au milieu de nos phares de voiture. Et pour autant, c'est des animaux hyper sociaux, adorables, et que moi, j'ai beaucoup de plaisir à aller observer. Donc voilà, c'est les deux projets. En plus d'un projet musical aussi, où j'ai un nouveau son là, sur lequel je suis en train de bosser. Parce que donc, j'ai aussi une casquette de rappeur Arval. Et en tant que rappeur, j'ai plutôt exploré pour le moment le sentiment de rage, de colère, de détermination qui m'animait et qui animait aussi les gens autour de moi. Mais il y a d'autres sentiments qu'on traverse, comme le désespoir, comme l'éco-anxiété, comme le sentiment que le mur est trop haut, que c'est trop fatigant, qu'on se bat contre des monstres, quoi. Et du coup, j'ai envie d'aller là-dedans, j'ai envie d'aller écrire une chanson empathique sur ce qu'on vit à cet endroit-là.
Mais comment tu restes
motivé?
voire utopiste.
Ouais, voire utopiste. Bah, franchement, je suis passé par des bons downs.
Pardon, hein, parce qu'il y a encore Thomas là, mais ouais. Lui, il a des enfants, du coup, il se disait ça. Est-ce que toi, c'est quoi?
Non, ouais. Moi, j'ai pas d'enfants. J'ai juste envie d'être heureux. Moi, c'est ça, ma colonne vertébrale. J'ai réfléchi un petit peu au sens de la vie. Je me suis dit, bon, je pense que c'est fondamentalement être heureux. Alors, maintenant, qu'est-ce qui me permet d'être heureux? Comme j'ai pris l'habitude de m'informer sur les problèmes du monde, bah, pour être heureux, il faut mieux que j'essaye d'agir dessus, parce que sinon, juste m'informer et rien faire, je trouve ça extrêmement difficile. Et après ça, être heureux, c'est aussi cultiver des vrais espaces de ressourcement. Voilà, moi, c'est le naturalisme, l'animalier, aller voir des animaux, peu travailler aussi, peu travailler. C'est un truc que j'ai mis en place là depuis un an et demi. Je disais que j'avais une équipe avant. En fait, quand tu as une équipe, il faut que tu produises beaucoup. Tu peux pas te permettre de rester comme ça, comme je le fais, avec 2-3 montages pas terminés que je reprendrai quand j'ai envie, quoi. Alors que voilà, là maintenant, j'ai ce confort-là de pouvoir me mettre des gros coups de rush. Hein. Souvent, je travaille toute la nuit pour sortir les vidéos dès le lendemain matin. Mais il n'empêche que le reste du temps, bah, je suis à la cool, quoi. Je me ressource vraiment et j'ai pas du tout envie que ma vie, tu sais, imagine, voilà, les théories de l'effondrement, moi j'y crois pas trop, mais imagine à un moment, il y a vraiment un basculement et où il y a un avant-après, j'ai pas envie de me dire, ah putain, tout le moment où la vie était encore assez cool, bah moi j'étais comme un con sur mon ordinateur à bûcher sur les réseaux sociaux. Non, j'ai envie de vivre plein d'autres trucs en dehors, quoi.
Et donc, Arval, alors là, t'es venu jouer ton premier concert hier soir, samedi, dans ces Rencontres les Résistantes. Deux titres.
Devant... Ça fait deux chansons.
Ouais, mais alors déjà, c'est rigolo, mais effectivement, mais il faut bien commencer par là. Ouais. Mais surtout, tu commences avec un concert où en fait, c'est blindé, quoi. T'as 2000 personnes devant toi. Ouais. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Raconte-nous cette expérience. Et est-ce que c'était prévu, du coup, dans la prog des Résistantes? Et puis finalement, qu'est-ce que tu fais vraiment là, toi, sur ce lieu?
Bah, c'est un superbe cadeau que m'a offert l'équipe qui a organisé aider les résistantes et vraiment je ne saurais que trop les remercier d'abord pour avoir créé cet espace de rencontre et après ça pour cette opportunité que moi ils m'ont permis d'avoir. Soulève-toi, c'est quand même un hymne au soulèvement de la terre et ça retrace plein de mobilisations qu'on a traversées ensemble. Donc le son, par exemple pendant la construction du campement, il tournait déjà pas mal en fait. Je suis content de me dire que c'est un son qui porte un imaginaire qui est partagé par beaucoup ici. Au niveau de l'annoncé, non, mais comme tous les concerts n'étaient pas annoncés, enfin aucun concert n'était annoncé, mais c'était prévu effectivement depuis le début. En l'occurrence, c'était prévu que ce soit même carrément sur la grande scène, mais il y avait trop de vent. Donc, sous le chapiteau.
Il y a eu une inversion grande scène, petite scène, pour que les concerts soient mieux.
Mais après ça, moi, j'ai eu l'impression d'avoir, en fait, par ces chansons, écrit une lettre d'amour et d'avoir eu l'occasion là de la déclamer aux personnes que j'aime, en fait. Je me suis dit, mais il n'y a aucune autre situation où ce sera exactement ce public-là, quelque part, pour qui j'ai écrit ces chansons. Donc c'était génial. J'avais des frissons partout et tout. Par contre, j'avais pas assez de place sur la scène. Moi, j'avais préparé tout un truc où je courais vraiment, où je sautais, parce qu'il y a de l'énergie dans mes chansons. Et là, j'étais tout coincé. Il y avait des saxophones, des violons, des gens qui installaient des micros derrière moi. J'étais là, bon, j'espère que je vais rien péter. Mais bon, la prochaine fois, ce sera une plus grande scène, peut-être.
Un mot sur les soulèvements de la terre. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont engagés aussi pour montrer que cette dissolution n'a pas de sens? Même légalement, ça va être très compliqué.
Ouais. Ah oui, moi, la première chose que je vais faire, là, c'est rejoindre. Il y a un tutoriel maintenant pour devenir requérant auprès du Conseil d'État contre le décret de dissolution. Donc ça, n'importe qui peut le faire, il faut vraiment le faire.
Ouais, c'est où, vas-y, dis.
Le tutoriel, c'est sur le site des soulèvements de la Terre. Je pense que ça doit être à la une, hein, aujourd'hui. Et c'est très facile de le faire. Ça reste une démarche administrative, hein, qui est plus marrant. Mais ça se fait très bien. Et après ça, en tant que média, je me suis engagé avec plein d'autres à continuer à relayer les informations de lutte que les soulèvements ne pourraient plus faire. Parce que du coup, ils ont le droit, ou en tout cas, ils ont pris le droit de communiquer sur la procédure de dissolution et ce qu'ils mettent en place pour s'en défendre. Mais ils n'ont plus le droit, et ils ne le font pas, de communiquer sur les prochaines mobilisations et continuer à construire le mouvement, en fait. Donc ça, c'est plutôt les comités, les collectifs locaux des soulèvements de la Terre qui organisent la suite, ou alors les coalitions de lutte. Mais du coup, en tant que média, ouais, moi, je vais relayer à fond tout ça et puis suivre les prochaines mobilisations, ouais.
On se quitte avec ton rap.
Allez, let's go.
Tu nous as lâché l'instru, Hugo, t'es prêt? Ben voilà, un petit live de Arval.
Ouais. Arval la lueur, c'est l'éclaireur de la horde du contrevent dans le roman de Alain Damasio. Et c'est vraiment, du coup, Arval, le projet, c'est faire du son pour contrer.
Ben vas-y.
Let's go.
À toi.
Pourquoi les policiers ont des trucs sur les bras, les jambes, des casques et bâtons?
Bâtons la vis, pourquoi faire?
C'est pour faire la bagarre.
Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère. Dis-moi qui veut la guerre de l'eau, hein? J'irai ceux qui ont les hélicos, les chars d'assaut, j'ai beau battre des paupières. J'y vois plus rien, merde, c'est l'enfer, mais fermer les yeux c'est pire. Mes larmes m'aident à y voir clair. De toute façon, j'ai pas besoin de mes yeux. Mon corps c'est suffisant pour démanteler calmement le symbole de leur accaparement. Lacrymo crépite, mortier réplique, les quadres appliquent, grenades j'évite. Tout se précipite, je crois que ça y est, je vois la brèche entre les deux fourgons qui flambent. Plus projectif, grenade détonne, un pasque blanc vole dans les airs. Dernière poussée, je crois que c'est la bonne, mais Serge est étendu par terre. L'eau ne se confisque pas, ne se gaspille pas. Les conditions vitales de l'existence ne se négocient pas. Ils ont la force, on a le nombre, ils ont la peur, on a l'espoir. Ils ont les gaz, mais nous on t'attoie. Soulève-toi et avance masqué. S'ils font de nous des ondes, ce sera pour leur coller au basque. Soulève-toi et ils vont craquer. Sûr que nous aussi, on va passer en force. Soulève-toi, ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer. Soulève-toi, méfiance, méfiance, face à l'eau qui dort. Les projets de bassine sont morts.
Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs destructions de biens, plusieurs appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la...
Mais qu'est-ce que tu vas dissoudre? Certainement pas mon envie d'en découdre. Apparemment leur stratégie c'est de mettre le feu aux poudres. Blau. Ça me donne encore plus envie de jouer des coudes. Coude à coude. Dissous, je deviens ce que je défends. Je suis prêt à me liquéfier sur champ pour t'exploser aux dents. On est de la mauvaise graine, du chien dent, de la grosse racine qui fait des croche-pattes pour que partout machine piétine. Et c'est par amour
Pour le vivant, c'est parce qu'il leur reste très peu de temps que la houtarde enfonce les lignes, que le pitmar enfonce les clous. C'est pour ceux qui ont de sublime, c'est pour qu'ils rendent coup pour coup. J'ai vu la forêt rasée pour la mettre au garde à vous. Pourtant, y'a tant de ceux à chérir à l'affût, j'en verrai pas le bout. Je vais m'interposer physiquement, amour et rage vont de pair. Nous sommes la nature qui se défend, nous sommes les soulèvements de la terre.
Sous couvert de l'anonymat,
je vais m'approcher de toi, j'aurai plus de visage. Tant pis des taxes, ça suffira. Deviens un spectre, esprit frappeur, un fantôme, pas de sabotage, non. Du désarmement, et c'est ma rage qui veulent dissoudre. Je comprends, elle n'a pas de prix, c'est l'espoir qui veulent dissoudre. Autant assécher la pluie, mais ils essaient de nous faire taire.
C'est là qu'on fait le plus de bruit.
Alors je mets feu au bulldozer, c'est pour éclairer la nuit. Soulève-toi et avance masqué. S'ils font de nous des ondes, ce sera pour leur coller au basque. Soulève-toi et ils vont craquer. Sûr que nous aussi, on va passer en force. Soulève-toi, ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer. Confiance, confiance, ce qui repousse partout ne peut être dissous. L'autre jour, on a pris l'autoroute pour y construire un mur. Une manière de dire merci, mais on n'ira pas vers l'extinction, même en voiture électrique. Alors bien sûr, ils vont nous traiter d'éco-terroristes et d'autres trucs chiants, mais je crois que ça y est, on est à un tournant. Il y a tant de zones à défendre, à réparer, à chérir, à cultiver. Alors je sais pas dans quel camp tu veux être. Mais si tu nous entends plus, inquiète-toi. Ce sera le calme avant la fête.
Yes, bravo.
Merci à vous.
Merci pour ce live caravane. C'était Arval, Vincent, Verza, partagé, c'est sympa.
Avec grand plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité.
Ben, merci d'être venu. Et puis merci Thomas, t'étais encore là, à la prochaine également. Bonne suite dans tout ce que vous faites. Et merci de continuer votre action. Salut.
Salut.
Cet échange a été capté lors des rencontres écologistes du Larzac en août 2023. Merci d'avoir écouté et passez une très belle journée sur Radio Larzac.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.